Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
Les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est des personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. En cette fin d'année, nous allons nous intéresser à un ingrédient qui nous accompagne au quotidien, le sucre. Loin de moi l'idée de vous culpabiliser en cette période de fête, mais j'avais envie de m'interroger sur cette thématique ô combien importante d'un point de vue sanitaire mais aussi environnemental. On retrouve le sucre sous diverses formes. Miel, alcool, produits industriels, fruits et différentes appellations. Lactose, dextrose, glucose, fructose, amidon. Malgré les recommandations de l'OMS de consommer maximum 50 g de sucre par jour et par adulte, notre consommation de sucre est en hausse constante et dans le monde entier. Elle a augmenté de 60% entre 1995 et 2020 pour atteindre en moyenne 95 g de sucre par adulte par jour en France, incluant les sucres ajoutés et les sucres naturellement présents dans les aliments. Toutefois, la France n'est pas le pire élève. Les pays consommant le plus de sucre en 2020 sont l'Inde et la Chine. Au niveau de la production, le Brésil est en tête, suivi par l'Inde. À lui seul, le Brésil fournit 20% du sucre de la planète. La France, elle, s'est distinguée par la production de la betterave sucrière. Cette betterave se fait souvent de façon intensive via de la monoculture dans laquelle on retrouve de nombreux intrants. C'est d'ailleurs pour les betteraves sucrières en France qu'a été réautorisé pendant un temps ces pesticides néonicotinoïdes. Au-delà de l'impact écologique et sanitaire de ces pesticides, la consommation de sucre a de nombreuses incidences sur la santé. Détérioration des fonctions cognitives, dont la perte de mémoire, fatigue chronique, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires et j'en passe. Au vu de toutes ces conséquences, il semble donc légitime de se questionner sur la nécessité de manger du sucre. La gourmandise est-elle compatible avec la préservation de notre santé et de l'environnement? Quelles alternatives s'offrent à nous? Pour répondre à ces questions, je reçois Raffaella Nolo. Raffaella est la cofondatrice de Yacon & Co, qui se veut une alternative plus saine et respectueuse de l'environnement que le sucre traditionnel. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur l'aspect sucré, mais si vous voulez creuser l'impact sanitaire et environnemental des mets salés des fêtes, je vous invite à écouter notre épisode 70, Dinde, chapon, foie gras, la fausse bonne idée des repas de fête. Bonjour Raffaella.
Bonjour, je suis ravie d'être là.
Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, donc je suis Raffaella, j'ai 32 ans et je suis la cofondatrice de Yacon & Co, en plus d'être experte des sujets du sucre.
Ok, cool. Vous êtes combien de fondateurs?
On est 3 fondateurs, donc Clément qui est avec moi à Paris et Thierry qui est à côté production à Vichy.
Ok. Comment et pourquoi le sucre est-il devenu ton combat?
Alors moi j'ai un rapport particulier avec l'alimentation parce que quand j'ai habité à New York il y a quelques années, j'ai développé des problèmes de digestion. J'étais végétarienne à l'époque, donc quand on est végétarien, on a tendance à, pour se caler, augmenter sa consommation de glucides. Donc les glucides c'est riz, pain, pâte, et donc je consommais beaucoup trop de sucre parce que finalement les glucides c'est des sucres aussi. Et le matin, j'étais très contente de me dire que je me faisais du bien à la santé parce que dans mes porridge du matin, je me mettais du sirop d'agave. Et en fait, le sirop d'agave, c'est très riche en sucre, mais ça, je l'ai appris qu'après. Et donc, je me plaignais de problèmes de digestion, pour être très concret, problème d'aller à la selle, crampes, enfin, c'était très compliqué. Et je me suis vraiment demandé ce que je mettais dans mon assiette, est-ce que c'était équilibré, est-ce qu'il y avait suffisamment de fibres, est-ce qu'il n'y avait pas trop de sucre, justement. Et c'est là où j'ai remarqué que j'avais... que je consommais trop de sucre, avec un S à la fin, donc différents types de sucre, hein, autant sucre complexe que sucre simple. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu un déclic sur le sucre et j'ai totalement arrêté de consommer du sucre pendant un an.
Ah ouais? Mais ça veut dire, parce que là on rentre direct dans le cœur du sujet, mais ça veut dire que t'as aussi arrêté tous les glucides, genre patrie et tout ?
Non. Ah. J'ai arrêté le sucre blanc et les alternatives aussi du sucre qui existe sur le marché, donc le sirop d'agave notamment que je consommais avant, le miel, j'avais tout arrêté pendant un an, parce que je me suis dit, en vrai, c'est ça qui me cause mes problèmes. Donc, je vais essayer de me faire un peu une cure sans sucre et on va voir ce que ça donne. Et effectivement, je me suis sentie beaucoup mieux. Mais par contre, au niveau du moral, beaucoup moins bien. Parce que je suis quand même très gourmande. J'aime la bouffe en général. Je suis pas du tout quelqu'un qui fait des régimes ou quoi que ce soit. J'adore ça. Les repas, c'est vraiment mes moments préférés de la journée. Donc, j'ai vite réfléchi à ce que je pouvais faire pour éviter de totalement arrêter pour le reste de ma vie, quoi.
Ouais, ok. Et qu'est-ce que t'as fait, du coup ?
Eh bien, je suis rentrée en France. Et bon, déjà, la bouffe en France est plus simple qu'aux États-Unis. Un tout petit peu moins transformée. Je travaillais énormément à New York aussi. Je travaillais dans la finance. Donc, je faisais du 8h-23h tous les jours. Donc, il y avait aussi un rythme de vie qui ne me convenait plus. Donc, quand je suis rentrée en France, j'ai rencontré mes associés actuels, Thierry et Clément. Et Thierry, il est diabétique de type 2. Donc, il est devenu diabétique au cours de sa vie. Et d'ailleurs, c'est 90% des diabètes sont ceux qui s'acquièrent au cours de la vie. Souvent, on pense que le diabète, c'est à la naissance. Et puis, si on l'a pas, on l'a pas. Non. L'environnement et le mode d'alimentation peut jouer dans la balance. Et donc, Thierry, c'était son cas. Et quand il a décidé d'arrêter de se médicamenter en général, parce qu'il l'a fait avec son médecin, évidemment, il n'a pas fait n'importe quoi, mais il en a eu ras-le-bol de se piquer 4 fois par jour à l'insuline. Il a changé son mode d'alimentation, et en arrêtant le sucre et en le remplaçant par un nouveau sucre naturel, qui s'appelle le sirop de Yacon, il a pu arrêter totalement de se piquer.
Donc il savait ce que c'était que ce sirop de Yacon, ou c'est son médecin qui lui a dit « tu sais, je connais un truc ».
Pas du tout. Les médecins, ils connaissaient pas du tout à l'époque, parce que c'est un sucre naturel qui vient du Pérou. Et donc, en France, c'était inconnu au bataillon. Encore aujourd'hui, hein, on le démocratise beaucoup. C'est pas encore suffisamment connu par rapport aux nutriments que peut apporter cette plante. Mais effectivement, c'est lui qui a fait des recherches sur Google, tout simplement. J'ai toujours envie de raconter un storytelling hyper sexy en fait, on se baladait dans une forêt au Pérou et puis on a failli tomber parce qu'il y avait une espèce de racine par terre et en fait, c'était un tubercule de Yacon. Non, on n'a pas un storytelling sexy là-dessus. C'est juste Thierry avec ses recherches sur Google et il a découvert cette plante et ce sirop qui a donc des très belles propriétés, qui est 4 fois moins riche en sucre simple que le sucre blanc et 2 fois moins calorique aussi. Et surtout, très riche en fibres prébiotiques. Donc, ça nourrit le microbiote intestinal. Et donc, lui, il est passé à ce sucre. Et donc, il nous en a parlé avec Clément. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est dingue que déjà, tu ne te piques plus grâce à ça. Pas que grâce à ça, bien sûr. Hein, il s'est mis aussi au sport, etc. Mais en tout cas, c'est un sucre qui permet de mieux vivre son diabète et permet de mieux vivre en général puisqu'il n'a aucune nocivité sur la santé.
Ok, et ça existait. On pouvait déjà se fournir en sirop d'Yacon à l'époque ?
Oui, on pouvait se fournir de sirop d'Yacon. Alors, il y a une marque qui s'appelle Sol Semilla qui vend aussi le sirop d'Yacon, mais ils ont en fait un catalogue avec une soixantaine de super aliments.
Ouais, donc c'est pas leur spécialité. Ils sont écotables. Ils sont chez nous.
Ah bah voilà. Bon, on adore cette marque, mais effectivement, elles ne sont pas spécialisées dans le domaine du sucre et sur le sirop d'Yacon. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup de com autour du sirop d'Yacon, ce qui s'explique parce qu'ils avaient d'autres produits à mettre en avant. Et nous, en fait, on a décidé de devenir le porte-parole du sirop d'Yacon. Donc, on produit et on commercialise que ce produit-là. Et on en parle dans tous les sens pour démocratiser et faire comprendre l'intérêt de ce sucre.
Vous le produisez vous-même ?
Oui. Alors, on a commencé très récemment au Pérou. Parce que c'est la mère patrie du Yacon, de cette plante. C'est comme une pomme de terre qui pousse vraiment partout là-bas parce qu'ils le consomment. À vrai dire, je pensais qu'ils le consommaient comme une pomme de terre, mais ils le consomment comme un fruit. Okay. Là-bas, ils appellent ça un fruta. Bon, je suis pas du tout bilingue en espagnol, mais il me semble que ça se dit comme ça. Mais quand j'ai fait un voyage au Pérou cet été, c'est ce que j'ai pu constater. Ils le consomment vraiment comme un fruit dans des salades de fruits ou autres parce que ça se consomme cru aussi. Et donc, on a décidé de s'installer là-bas. Donc là, on a fait des premiers tests nous-mêmes. Et à partir de printemps-été 2024, verra le jour notre propre usine qui sera donc au Pérou et qui produira jusqu'à 200 tonnes de sirop d'iaconne.
Et l'idée, c'est de pouvoir à terme le produire aussi en France ou pas du tout ?
Oui, bien sûr, mais ça prend énormément de temps. Donc on a commencé. Mais...
Tu peux faire pousser du iaconne aujourd'hui sur nos terres ?
Oui, en fait, le iaconne s'appelle la poire de terre en France et ça pousse déjà un peu partout en France.
Ah bon ?
Oui, mais ce n'est pas la bonne variété.
Ah.
Et donc, il faut faire tout un tas de tests, de savoir dans quelle terre, dans quel type de climat en France, ça, c'est le mieux.
D'accord.
Donc, c'est très fastidieux. Les agriculteurs ne connaissent pas trop cette plante non plus encore. Pour le consommateur final, consommer la plante telle qu'elle, c'est super bon pour la santé, mais en fait, c'est très compliqué à cuire. Donc, tout le monde a la flemme, hein, autrement dit. Donc, ça prend jusqu'à 1h30 de cuisson, alors qu'une pomme de terre, c'est 40 minutes. Donc, voilà.
Ouais.
Donc, voilà, on fait un gros travail là-dessus aussi pour en parler aux agriculteurs, mais eux-mêmes nous disent un peu « Ouais, j'ai un morceau de champ là au fond, vous pouvez mettre votre expérimentation là. » Mais eux-mêmes, en fait, n'y prêtent pas énormément soin et je les comprends aussi parce que ça leur rapporte pas beaucoup de sous pour le moment par rapport à leurs autres cultures. Donc on le fait doucement, mais sûrement.
Ok, super. Merci pour cette présentation. On va donc essayer avec toi de décortiquer le sucre. Pour commencer, je voudrais que tu nous expliques la différence entre les différents types de sucre et notamment entre ce qu'on appelle le sucre, le glucose et les glucides.
Oui. Alors, le glucose, c'est un type de molécule de sucre. C'est-à-dire que dans le sucre, il y a glucose, saccharose, fructose, maltose, lactose. Il y a vraiment plein de différents types de molécules. Donc le glucose, c'est juste une des molécules du sucre. Donc le glucose, quand il se digère, il passe très rapidement dans le sang. Donc c'est ce qui cause les pics de glycémie. Donc par exemple, les diabétiques ne peuvent pas en consommer ou alors en très faible quantité parce que justement, ça fait exploser leur glycémie et ils ont besoin de s'injecter de l'insuline. Après, il y a les glucides. Et les glucides, c'est ce qu'on appelle des sucres complexes. Alors à l'époque, on appelait ça des sucres lents, mais à outrance, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout lent. Quand on consomme des pâtes, par exemple, ça passe dans le sang aussi rapidement que du sucre de canne ou du sucre blanc. Donc, ça fait exploser la glycémie aussi.
Ok.
Donc, finalement, ton corps...
Et ça a le même effet sur le corps exactement que le sucre blanc ?
Ça a le même effet. La seule différence, c'est que dans le sucre blanc raffiné, il n'y a absolument aucun minéraux. Donc, en fait, c'est vraiment juste une charge glycémique énorme pour rien, aucun autre intérêt pour le corps. Alors que dans les pâtes, potentiellement, si elles sont complètes, il y a des choses intéressantes à aller chercher dedans. Donc, ce n'est pas non plus aussi nocif qu'un sucre blanc, bien
d'accord,
sûr.
D'accord.
Donc, dans les sucres, pourquoi on appelle ça des sucres complexes ? C'est parce que c'est des molécules de glucose imbriquées les unes aux autres et nos enzymes digestives les séparent, en fait, ces molécules de glucose qui sont ensuite absorbées et passent dans le sang. C'est pour ça qu'en fait, c'est du glucose qu'on consomme quand on consomme des pâtes.
Ok. Est-ce qu'il y a, du coup, ce que j'entends, c'est probablement la réponse est non, mais est-ce qu'il y a des bons sucres et des mauvais sucres ?
Alors...
Enfin, si, il y a ceux qui ont des minéraux et ceux qui n'en ont pas, déjà.
Ouais. On pourrait faire cette hiérarchie-là en disant que, voilà, les sucres complets, bon, il y a au moins... d'autres choses intéressantes d'aller chercher dedans. Après, voilà, ce que je dis toujours, c'est que par exemple, des antioxydants qui sont dans, par exemple, le miel, on peut aller chercher dans du brocoli, dans vraiment d'autres produits qui sont moins chargés en sucre. Donc, c'est vrai que les gens aiment bien dire « Oui, mais le miel, c'est meilleur pour la santé que le sucre. » À vrai dire, c'est meilleur pour la santé que le sucre raffiné, ça c'est sûr. Un peu mieux, parce qu'au moins, c'est pas ultra transformé, etc. Néanmoins, en termes de charge de sucre, il y en a quasiment autant. Dans le miel, il y a 90% de sucre simple et dans le sucre blanc, il y en a 100%. Donc, on diminue juste de 10%. Donc, j'ai perdu la question.
Non, est-ce qu'il y a des bons sucres et des mauvais sucres ?
Ouais. Du coup, il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais sucres. C'est-à-dire que quand on consomme une molécule de sucre, donc, que ce soit fructose, glucose, maltose, lactose, etc., quand on les digère, notre corps, il ne sait pas faire la différence entre les deux. Il ne vit forcément pas très bien. Le glucose, il passe dans le sang. Le fructose, il est filtré par le foie. Donc, ça cause des problèmes de maladie du foie gras non alcoolique, cirrhose du foie, donc, que les médecins voient aujourd'hui.
Ouais. Tu peux avoir une cirrhose du foie alors que tu bois pas d'alcool ?
Tout à fait.
Incroyable.
Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus commun. On a un célèbre gastro-entérologue qui nous suit, qui est dans notre board scientifique, pour être sûr qu'on dise pas des bêtises, parce qu'on n'est pas nous-mêmes médecins, donc on fait attention de s'entourer de personnes qui sont, enfin voilà, qui ont un diplôme là-dedans. Et lui nous a expliqué qu'il voyait des personnes arriver dans son bureau pour des problèmes de cirrhose du foie, alors qu'ils sont pas alcooliques, quoi. Ils consomment pas d'alcool spécifiquement, et c'est parce qu'en fait, ils consomment trop de sucre type fructose. Alors, je rassure tout de suite, c'est pas les sucres qui sont dans les fruits entiers. C'est des sucres qu'on trouve dans les produits ultra transformés, des sirops de fructose qui sont ajoutés aux aliments, aux biscuits, aux gâteaux, aux céréales qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et ça, c'est ultra transformé et très, très nocif pour la santé.
Ok, donc il y a quand même des sucres pires que d'autres.
Oui.
Tu nous as parlé de sucre raffiné. Je voudrais comprendre la différence entre un sucre raffiné et un sucre non raffiné. Et c'est quoi concrètement un sucre raffiné ?
Un sucre raffiné, il est passé par des processus chimiques pour soit le décolorer. Donc par exemple, il peut y avoir du sucre de canne qui est normalement de couleur rousse. Et on le raffine pour qu'il devienne blanc.
Donc, et pourquoi on a fait ça ?
On a fait ça parce que le consommateur, quand c'est blanc, il se dit c'est pur, c'est plus safe, voilà, l'être humain est bête et discipliné, mais on tombe tous dans ce panneau. Souvent, les personnes, nous, on constate que les gens préfèrent voir des pâtisseries, des cookies, des biscuits qui sont bien blancs ou un peu crème, mais dès que ça devient foncé, tout de suite dans l'imaginaire du consommateur, il se dit, alors soit c'est un truc super sain et du coup ça va pas être bon, soit il y a un truc bizarre, c'est pas la couleur normale. Un 4 quarts par exemple qui serait un peu brun, les gens se poseraient un peu des questions.
Mmh. Donc... Alors qu'à côté de ça, ils mangent quand même beaucoup de chocolat quoi.
Oui, mais pour le chocolat, je pense qu'on a l'habitude de voir ouais. que c'est la couleur est foncée. Mmh. Donc soit décoloration, soit tout simplement pas de décoloration, mais ça passe par des processus vraiment de nettoyage en fait chimique, et c'est pour ça qu'il devient raffiné, parce qu'en fait à la fin ça passe par tellement de processus chimiques qu'il n'y a plus aucun minéraux dedans.
Et là, quel est l'intérêt ?
L'intérêt, c'est une très bonne question.
Il y a une histoire de conservation ou même pas ?
Non, je pense que... Honnêtement, là, j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi on aurait envie de faire un sucre raffiné juste pour en faire un sucre raffiné. Mis à part la décoloration, ça, j'ai bien compris le concept, mais...
Et ce qu'on appelle, du coup, le sucre brun ou le sucre de canne, qui est de couleur un peu brune, du coup, enfin, marron clair, ça, c'est raffiné ? Ça peut l'être ?
Le sucre le sucre de canne n'est pas raffiné.
D'accord.
Il reste quand même ultra transformé et très riche en sucre.
C'est-à-dire je comprends pas la différence entre raffiné et ultra transformé.
En fait, ultra transformé, c'est tout simplement quand c'est passé par tout un tas de process où en fait ça monte très très haut en température et que tu dénatures quand même le produit de base. Tu supprimes pas tous les nutriments. Néanmoins, à la fin, il y a vraiment c'est anecdotique ce qui reste à la fin. Donc raffiné, c'est il y a zéro. Et je dis au hasard comme prorata, mais il y a zéro pour un sucre raffiné. Et pour un sucre de canne, il y aurait 0,01 quoi.
Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ok, et dans les sucres complets, en revanche, là, on est sur un produit non ultra transformé et non raffiné.
C'est peu transformé, c'est pas non transformé, c'est juste peu transformé. Il faut quand même transformer la plante en sucre, hein, forcément. Ouais. Néanmoins, malheureusement, c'est pas parce qu'ils sont pas raffinés qu'ils sont pas nocifs pour la santé, parce qu'en fait, ils sont quand même très riches en sucre. Donc la dose glycémique, donc quand on les consomme, il y a beaucoup, beaucoup de sucre qui passe dans le sang. Donc on a des pics de glycémie et c'est les pics de glycémie qui ont c'est un vrai danger pour la santé.
Ok. Par rapport à notre consommation du sucre, elle a fortement augmenté. Qu'est-ce qui explique ça, qu'aujourd'hui on consomme bien plus de sucre qu'avant ?
Parce que c'est hautement addictif. C'est plus addictif que la cocaïne. Ils ont fait une expérience avec des rats et ils leur ont laissé les choix entre de la cocaïne et du sucre et ils se sont tous dirigés vers le sucre. Donc,
génial.
Ça donne une idée. Mais pour expliquer ça de façon plus scientifique, c'est parce que, en fait, ça déclenche le circuit de la récompense. Donc, il y a la dopamine qui se déclenche dans notre cerveau. Et en fait, c'est un vrai moment de plaisir. Et en fait, on a toujours envie d'y revenir. Et donc, les personnes, comme ils trouvent ça plaisant, bah, ils en consomment de plus en plus, tout simplement. Et le sucre se trouve dans plus en plus d'aliments aussi, parce que le sucre permet de conserver, permet de texturer, permet de diminuer aussi le prix des aliments transformés, genre gâteaux, fast-food, etc. Donc d'augmenter les marges des industriels. Hein,
Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a pas, il me semble qu'il doit y avoir quand même des intérêts économiques, mais aussi peut-être géopolitiques. À quel moment on s'est mis à manger comme ça plein de sucre ?
Alors, je sais que à la fin du 19e siècle, on en consommait à peu près 3,5 kilos par an par personne, et que là, on est à 35 kilos par an.
Ah ouais, c'est x10.
C'est x10.
Ok. Et ça, tu l'expliques. Bon, l'agroalimentaire, on l'entend pour des raisons économiques et de profit. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux politiques derrière la consommation de sucre? Tu vois, pourquoi Napoléon, il s'est mis à ce qu'on plante plein de betteraves sucrières en France?
Honnêtement, là, tu me poses une colle. Okay. Je ne saurais pas répondre les enjeux géopolitiques. Je pense juste que le lobby du sucre est assez puissant et que donc il y a aussi ça. C'est-à-dire que dans les années 60, on disait consommer du sucre, c'est vachement bien, c'est hyper bon pour la santé, ça donne de l'énergie, on donnait des boissons très sucrées aux enfants parce qu'on pensait que c'était bon. Moi, je pense pas qu'on pensait que c'était bon. Je pense que c'était juste des études qui ont été payées par le lobby du sucre pour dire ça. D'ailleurs, il y a une étude connue qui a été faite dans les années 60 aux États-Unis où, en fait, ils voulaient savoir d'où provenaient les problèmes cardiovasculaires. Entre le sucre et le gras, qu'est-ce qui était pire? Et en fait, ils ont fait la découverte que c'était bien le sucre qui était à l'origine de ce type de maux, mais le lobby du sucre a payé les chercheurs pour qu'ils changent leurs résultats.
Okay.
Donc, ils ont changé le résultat en disant non, en fait, c'est le gras. Et c'est pour ça que nous, on fait partie de cette génération. En tout cas, je fais partie de cette génération où on pensait que le gras, c'était la chose pire au monde pour la santé. Dès qu'on faisait un régime, il fallait surtout pas de gras. Même le bon gras des noix, etc., on le bannissait. Alors qu'en réalité, le gras est essentiel au bon fonctionnement du cerveau. Donc, aujourd'hui, on revient dessus. Et aujourd'hui, c'est le sucre qui est décrié parce qu'on a fait la découverte de ces recherches truquées, etc., et qu'on a bien remarqué que à force d'études, c'était bien le sucre qui causait beaucoup de soucis.
Ouais, c'est décrié, et encore, franchement, par exemple, pour les enfants, tu vois le nombre de produits qu'il y a sucrés. D'un côté, on te dit qu'il ne faut pas donner de sucre avant 3 ans,
ouais.
Et de l'autre, tous les produits pour bébés, quasiment, il y a du sucre dedans, quoi.
Ouais. Alors déjà, parce que le lait maternel a plutôt un goût un peu sucré, j'avoue que je m'en souviens plus trop, mais c'est ce que j'ai lu. Et donc, de façon générale, de toute façon, dès notre enfance, en fait, on est habitué un peu à ce goût sucré. C'est pour ça que les enfants ont plutôt une appétence pour le côté un peu sucré, ça lui rappelle le lait maternel.
Ah oui, c'est ça la justification de « on aime le sucre » ?
Une des justifications.
Enfin, une des raisons.
Ouais, une des raisons, c'est qu'en fait, on a le goût, le palais qui est plutôt sucré dans l'enfance, et puis par ce lait maternel. Et puis ensuite, une fois qu'on goûte au vrai sucre, après, c'est le circuit de la récompense et la dopamine qui prend le dessus.
Je voudrais qu'on parle des questions écologiques. On a compris le sucre. Alors, il y a différents types de sucre. Il y a le Brésil qui est un énorme producteur de sucre. Aujourd'hui, comment est produit le sucre? C'est quoi le type de production qui existe? C'est que de la monoculture?
Oui. C'est majoritairement de la monoculture, c'est surtout le Brésil. Donc il y a le sucre de canne et le sucre blanc de betterave en France. Donc c'est deux types de sucre différents. Il y en a un, c'est la canne à sucre, et l'autre, c'est la betterave sucrière.
Et en termes de santé, ils vont avoir des différences, j'imagine
Aucune.
Aucune?
Ouais.
Il n'y a pas plus d'intérêt, je sais pas, je m'en rappelle de quelqu'un un jour qui m'avait dit, au moins le sucre de la betterave sucrière, il est blanc naturellement, par exemple. Tu vois.
Oui, mais le sucre de canne est roux naturellement. Après, il existe le sucre roux raffiné, comme on disait tout à l'heure, donc blanc. Donc là, oui, effectivement, je pense que le sucre raffiné, donc le sucre roux qui devient blanc, il faut éviter. La cassonade, c'est du sucre blanc qui est devenu roux.
Mais non.
Si. Breaking news. Donc voilà, on fait des choses un peu spéciales, mais c'est...
Mais pourquoi ?
Honnêtement, j'en ai aucune idée. Là, j'arrive pas à savoir, mais j'imagine qu'il y a plusieurs usages, peut-être en cuisine aussi.
C'est encore plus sucré. Est-ce que ça a un goût plus sucré quand le sucre blanc, non ?
C'est pareil, c'est des impressions, en fait. C'est juste une impression. Je pense qu'il y a des personnes qui disent « Ah ben non, moi, je préfère le sucre blanc parce que c'est un meilleur goût », mais en vérité, ça a quasiment les mêmes goûts. Hein.
Ouais. Ouais. Et donc, en termes de production, c'est de l'agriculture, la monoculture. Est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'intrants qui sont utilisés, je pense, pesticides, engrais ?
Sur le sucre de betterave en France, il y a des néonicotinoïdes qui sont des engrais qui sont excessivement nocifs à la fois pour les espèces qu'ils souhaitent éliminer parce qu'ils endommagent leur culture, mais aussi les espèces non ciblées. Je pense aux abeilles et aux vers de terre qui ont un intérêt pour la terre parce que ça apporte de l'air dans la terre, ça aère et puis des nutriments aussi, des minéraux de par leurs déchets. Donc ça tue ces deux insectes-là. La betterave sucrière, la culture, a tué 2/3 de nos insectes volants ces dernières années à cause des néonicotinoïdes. Covid. Nos voisins européens ont arrêté.
On peut aujourd'hui pointer du doigt la betterave sucrière particulièrement plus que les autres cultures ?
Oui, parce que les néonicotinoïdes... C'est un peu compliqué, ouais. C'est que utilisé par la betterave sucrière. Ils ont reçu une dérogation en 2020 parce qu'il y avait certains champs qui avaient été endommagés par cette espèce intrusive qui jaunissait les feuilles et donc rendait la culture complètement détruisait, quoi. Donc il y a eu une dérogation qui a été donnée, mais c'est interdit pour tous les autres types de cultures en France aujourd'hui.
Ouais. Je sais pas si tu sais, mais il y a un arrêt de la Cour de justice, il se trouve que je fais du droit à côté, moi, et que je travaille sur les pesticides, mais qui a condamné la France, enfin, condamné la Belgique, et donc a opposé la France de revenir sur cette dérogation.
Ouais.
Donc on est au moins sorti de ces néonicotinoïdes, a priori.
C'est vrai.
Mais j'imagine qu'il y a d'autres traitements, quoi.
Il y a des traitements, mais surtout, ça utilise énormément d'eau. Donc en fait, ça cause l'érosion des sols. Donc on a des sols en fait qui ont plus aucun minéraux et donc c'est pour ça qu'on rajoute des engrais. Après c'est un peu un cercle vicieux, quoi.
Et côté canne à sucre, j'imagine que là aussi il y a des pesticides et des engrais qui sont utilisés.
Ouais, tout pareil. Et en plus de ça, les feux qu'il y a eu en Amazonie, je crois que c'était il y a 2 ans, il y avait des immenses feux dans la forêt amazonienne. C'est notamment pour planter des champs de canne à sucre. Donc, ce n'est pas que la viande, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pour cultiver du bœuf, mais donc avoir donc du bétail. Mais en réalité, c'est aussi pour le sucre. Donc, c'est une catastrophe écologique aussi de ce côté-là. Mais ce que j'aime bien rappeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, bon, moi, je consomme plus du sucre de canne parce que ça vient de l'autre bout du monde, donc l'empreinte carbone est quand même élevée. » En réalité, l'empreinte carbone du sucre de betterave français est 2 fois plus élevée que le sucre de canne, alors qu'il vient de l'autre bout du monde.
Pourquoi ?
À cause des intrants.
Ok, fascinant. Parce que je pensais que quand même aussi, niveau intrant, sucre de canne, c'était un peu violent, quoi.
Oui, aussi. Okay. Mais j'ai lu une étude qui prouvait que c'était 2 fois plus.
Donc, si on devait en comparer une, en tout cas, la betterave ne vaut pas mieux que le sucre de canne. En termes de changement climatique, on voit que ça cause, enfin, en tout cas, ça produit des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que la canne à sucre est elle-même menacée par les changements climatiques, comme peuvent être le café, le chocolat, tu vois?
Oui, parce que ça a besoin de beaucoup d'eau. Il y a besoin d'énormément d'eau, donc ça veut dire que s'il n'y a pas assez de pluie naturelle ou qu'il n'y a plus de ressources dans les nappes phréatiques, le sucre de canne ne pourrait plus pousser.
Ouais, j'imagine la betterave, du coup, aussi, n'a plus d'intérêt. Il y a des enjeux sociaux pour la production du sucre, particulièrement pour le sucre de canne qui vient de l'autre bout de la planète. Je pense notamment aux travailleurs dans les plantations. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, je ne sais pas exactement combien de personnes ça emploie, le sucre, mais à mon avis, énormément. Mais moi, j'ai une conviction personnelle, c'est qu'en fait, la gourmandise sera toujours présente chez l'être humain. On aura toujours envie d'un goût sucré. Donc, si un jour, il y a un déclic général et des taxes et des interdictions de surconsommer du sucre, il va y avoir d'autres types de sucres qui vont venir remplacer ces cultures. Donc, je ne pense pas qu'il y aura tant de personnes qui vont perdre leur emploi. Ils vont juste remplacer les cultures, quoi. Notamment le sirop de yacon qui pousse, donc le yacon qui pousse très très bien en Amérique du Sud, qui vient d'Amérique du Sud d'ailleurs. Les Brésiliens en consomment, consomment la plante entière aussi. Je sais pas s'il y a du sirop de yacon brésilien, c'est à vérifier, mais je crois pas. Je crois que c'est l'intégralité du sirop de yacon international vient du Pérou aujourd'hui. Un petit peu d'Asie aussi, mais très très peu. C'est vraiment anecdotique. Et c'est ma conviction personnelle. Et je pense aussi qu'ils arriveront jamais à faire passer une loi qui, du jour au lendemain, mettra les personnes sur le banc de touche, parce que le sucre est tellement partout que ça va se faire étape par étape.
Oui, je pensais aussi aux travailleurs aujourd'hui, à la qualité du travail, au bien-être au travail de ces travailleurs-là. Et je ne sais pas s'il y a eu des enquêtes où on a montré que les travailleurs n'étaient pas forcément très bien traités dans les champs de canne à sucre.
Ça m'étonnerait pas, puisque dans le cacao, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans les champs. Donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait aussi ça pour la canne à sucre.
On va approfondir la question du sucre sur la santé. On a déjà à peu près quand même compris. La première question qui me vient du coup, c'est est-ce qu'en fait on peut se passer, tu t'en es passé pendant un an, mais est-ce que on a un intérêt pour la santé de se passer radicalement de sucre?
Alors j'ai toujours une réponse à deux branches, c'est qu'on peut se passer totalement de la molécule glucose, fructose, maltose, lactose, mais on peut pas se passer du goût, je pense. Je pense que l'humain est trop gourmand et je suis contre totalement éradiquer le sucre dans les assiettes des Français. Maintenant, il existe d'autres types de sucres plus vertueux qu'il faut plus mettre en avant, qui doivent être encouragés. Mais par contre, nutritionnellement parlant, le sucre n'a aucun intérêt pour la santé. Alors j'entends déjà les personnes qui vont rétorquer à ce sujet. Les glucides sont essentiels, c'est-à-dire les glucides riz, pain, pâte, sont essentiels parce que c'est notre source d'énergie numéro une. Mais en fait, les glucides, donc on peut les trouver autre part que dans le sucre blanc ou dans le sucre de canne. Donc on peut totalement supprimer le sucre blanc de canne, raffiné, pas raffiné, de son assiette et pourtant rester en excellente santé, voire améliorer sa santé et son énergie.
Ok. Hyper intéressant, mais en tout cas ne pas supprimer en effet ces glucides que l'on va trouver et plutôt favoriser dans ce cas-là des produits complets, j'imagine.
Oui, complet, c'est toujours mieux parce que ça veut dire que ça a été moins transformé, on a moins dénaturé le produit, il y a des minéraux en plus intéressants. Maintenant, par exemple, si on parle de juste l'effet sur le taux de sucre sanguin, en fait, les pâtes complètes ou les pâtes blanches ont le même effet sur les pics de glycémie. C'est-à-dire que c'est digéré exactement pareil.
Ok, mais ces pics de glycémie, ils sont réellement problématiques ?
Oui, parce qu'en fait, les pics de glycémie viennent se stocker déjà. C'est ça qui fait qu'on stocke dans les graisses. Et quand on stocke dans les graisses, c'est même pas une question de prise de poids, même si c'est souvent une problématique chez certaines personnes qui souhaitent éviter de prendre du poids ou autre. Mais c'est surtout que ça peut ensuite boucher les artères, donc provoquer des problèmes cardiovasculaires. Le sucre est aussi, il y a des études qui montrent qu'il pourrait être un des facteurs d'Alzheimer. Le sucre nourrit le cancer aussi, donc il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de cancer et qui sont en chimio et les médecins leur suggèrent d'arrêter le sucre temporairement pour éviter de nourrir leur cancer. Donc le sucre c'est quand même et les pics de glycémie, je veux dire, c'est quand même très problématique. Et même sans parler des problèmes très graves comme que je viens de mentionner, il y a des soucis du quotidien qu'on ne sait pas expliquer. Par exemple, on a un coup de barre après le déjeuner. Bah, peut-être qu'on a mangé un gros plat de pâtes et qu'en fait, dans les pâtes, il y a donc des glucides, donc des sucres, digérés comme des sucres. Donc, on a un pic de glycémie et à la rechute, on est fatigué. Moi, j'avais des problèmes de digestion. Ça a détruit mon microbiote intestinal qui s'est repeuplé ensuite parce que le microbiote se nourrit du sucre. Le mauvais microbiote, pardon, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises bactéries qui vivent dans nos intestins. Donc, les mauvaises bactéries se nourrissent du sucre. Et donc,
pas les bonnes ?
Non.
Ah bon ?
Non, non, les bonnes, justement, elles se nourrissent plutôt des fibres.
Ah oui. Donc, OK. Mais j'entends quand même qu'il y a des effets positifs du sucre au sens large, en tout cas en termes d'énergie. Je pense aussi au goût. C'est quand même un exhausteur de goût, comme le sel.
Oui, alors en termes de goût, complètement. Moi, ouais. je suis très gourmande, hein, donc c'est pas moi qui vais dire le sucre, c'est pas bon pour le plaisir gustatif, on va dire. En revanche, pour l'énergie, non. Vraiment, enfin... On peut aller puiser sa dose d'énergie dans d'autres types de glucides et des glucides qui apportent d'autres types de minéraux et qui font des pics de glycémie moins élevés.
Ouais, j'entends. Et pour le moral ?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le moral, parce que c'est assez intéressant comme sujet, en fait. Le sucre détruit donc le microbiote intestinal et le microbiote, c'est notre deuxième cerveau, voire certains médecins appellent ça le premier cerveau maintenant. Donc, nos émotions, la dépression sont générées par notre microbiote. Si on a un bon microbiote, on a moins de chances d'être dépressif. Et si on a un mauvais microbiote, on a plus de chances d'avoir des coups de blues et avoir des coups de mou. Et donc, est-ce que c'est bon pour le moral ? Eh bien, du coup, le sucre donc de canne ou blanc, c'est mauvais pour le moral dans le sens où ça a donc détruit le microbiote. mais c'est bon pour le moral, juste sur le moment, en fait. C'est comme ça génère cette hormone de la dopamine, donc c'est un peu l'hormone du bonheur, instantanément, ça nous donne une source de bonheur. Mais c'est très court, et après, on aura encore envie de ressentir ce moment de bonheur. Donc, ça rend addict. C'est pour ça que ça rend addict, d'ailleurs.
C'est aussi le cercle vicieux, du coup, en termes de dépression. C'est qu'en fait, ça ne soigne pas du tout la dépression et ça peut la renforcer.
Exactement.
En termes de santé, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, alors, que c'est un enjeu de santé publique, c'est tout ce que tu nous as dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des maladies que l'on peut pointer du doigt du fait de notre consommation de sucre? De manière générale, bon, il y a le diabète, j'imagine?
Oui, le diabète, même si on appelle ça d'ailleurs le diabète sucré, le diabète de type 2. Mais en réalité, je dirais plutôt que le sucre, c'est un facteur aggravant. Parce que le diabète, il arrive aussi si on a fait peu d'activité physique dans sa vie, si on est un peu en surcharge pondérale. Le type 1, par contre, c'est celui qui s'acquiert au cours de l'enfance, qui est héréditaire. Et là, c'est une maladie auto-immune qui n'a rien à voir avec l'alimentation. Mais c'est que, entre guillemets, 10% des diabètes. Donc, dans 90% des cas, le sucre aggrave. Est-ce que c'est l'unique cause du diabète? Non, je pense pas.
Et pour les autres maladies, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que il faudrait, si j'en crois ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quand même massivement réduire notre consommation de sucre?
Ouais, il faudrait diviser par 4 en consommation de sucre. On devrait plutôt être autour de 25-50 grammes, ça dépend. C'est ce que tu mentionnais au début lors de la présentation. Donc 25 grammes de sucre simple et 50 grammes de sucre avec aussi le sucre des fruits et les glucides, etc. Donc aujourd'hui, on est bien supérieur à ça.
Et côté sucre des fruits, justement, est-ce qu'il faut aussi faire attention à notre consommation de fruits?
Alors, ça dépend sous quelle forme on les consomme. Si tu les consommes en jus, même si c'est 100% naturel pressé à la maison, tu retires toute la partie intéressante du fruit qui sont les fibres. Et les fibres, c'est ce qui fait que dans la matrice nutritionnelle, tu as un ralentissement de la digestion des sucres et tu as donc un pic de glycémie qui est moins élevé. Si tu consommes du jus, non seulement, normalement, un jus d'orange, il n'y a pas qu'une seule orange dedans, il y en a peut-être 4. Donc, je te donne le challenge de consommer 4 oranges entières, c'est horrible, enfin c'est impossible je pense, à moins de le consommer sur toute la journée, mais pas d'un coup en tout cas. Donc tu consommes 4 oranges d'un coup, tu en gardes du coup que le sucre et les vitamines aussi bien sûr, mais le sucre quand même, et donc tu as un énorme pic de glycémie. Donc les fruits, il ne faut pas les arrêter, mais il faut juste les consommer en entier.
Ok. Ça vaut aussi pour les fruits que tu vas prendre avec un extracteur de jus où tu vas notamment aussi mettre des légumes?
Alors, si tu coupes ton jus avec certains légumes, ça peut être mieux, mais c'est pas parfait quand même.
Ok. Et même sur la consommation de fruits, est-ce qu'il faut quand même faire gaffe, tu vois, au nombre de fruits que tu manges par jour?
Bah, c'est comme tout, je pense que tous les extrêmes sont mauvais. Si tu manges toute la journée des fruits, je pense que tu auras d'autres problèmes que les pics de glycémie, tu auras aussi des problèmes aux toilettes. Enfin voilà, c'est déconseillé de consommer que des fruits dans une journée. Mais si tu manges un fruit à la fin de chaque repas ou au goûter, c'est pas ça qui va te tuer. Et surtout, en réalité, quand tu consommes, c'est ce que je donnais comme exemple avec les oranges, t'es calé beaucoup plus vite quand tu consommes un fruit entier. Donc, par exemple, jus de pomme versus pomme. Dans un jus de pomme, il doit y avoir 4 ou 5 pommes. Tu vas pas manger 5 pommes d'un coup. Ou alors, c'est un concours de bouffe, mais c'est
spécial.
Ouais.
Je voudrais qu'on parle maintenant du sucre caché. On en a un petit peu parlé, mais on trouve un peu du sucre partout, sous différentes appellations. Quels sont aujourd'hui les produits qui contiennent du sucre sans qu'on s'en rende compte?
74% des aliments des supermarchés ont un ingrédient sucre, donc sont composés de sucre. Plus, alors ça c'est une information pour tout le monde, plus ils arrivent tôt dans la liste, plus c'est qu'il y en a beaucoup. Donc si par exemple le premier ingrédient c'est du sucre, on peut être sûr qu'il y a beaucoup de sucre dans le produit. En deuxième place aussi, c'est pas top. Le problème c'est que le sucre n'a pas toujours la même appellation. Donc, il y a plein de noms différents un peu farfelus qu'on reconnaîtrait pas tout de suite. Donc, on se dit, oh, bah, ça va, il n'y a pas de sucre dedans. Mais en fait, il y a peut-être écrit sirop de glucose, sirop de fructose. Si on n'est pas connaisseur, on ne sait pas forcément que c'est du sucre en tant que tel. Et là où ça me choque le plus, c'est quand c'est dans des aliments salés. Donc, par exemple, autant quand on achète des biscuits, on sait qu'il y avait à avoir du sucre dedans. Donc, on n'est pas choqué. Mais si on ramène une sauce tomate à la maison et dedans, il y a du sucre dedans, c'est pas top. En fait, on avait prévu de manger un truc sucré et en fait, on se retrouve avec quelque chose de salé, et on se retrouve avec un truc bourré de sucre, quoi.
Est-ce qu'il y a, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y a du, que le lactose, c'était du sucre. C'est-à-dire que dès qu'on commence, qu'on consomme un produit laitier, on consomme du sucre?
Oui, tout à fait. C'est un type de sucre.
Qui a le même effet que les autres?
Qui se digère un tout petit peu plus lentement quand même, parce que c'est la rapidité aussi de digestion des sucres qui fait leur nocivité. Glucose, saccharose, fructose, ça se digère très vite. Mais le lactose, en fait, dedans, t'as d'autres nutriments aussi. T'as du gras, c'est pour ça que le lait entier, c'est aussi le mieux que le lait écrémé ou demi-écrémé. Bien sûr, quand on n'a pas d'intolérance au lactose. Mais donc, c'est un tout petit peu moins nocif. Néanmoins, les diabétiques, les personnes qui sont très avancées dans leur diabète font attention au lactose aussi.
Ok. Et ouais, parce que quand tu manges, alors pour le lait, tu peux le comprendre, mais quand tu manges du fromage, tu ne dis pas que tu manges du sucre, quoi, tu vois.
Non, mais c'est vrai que dans le fromage, c'est tellement riche en gras que le gras réduit l'impact des glucides sur ta digestion, c'est tout simplement, ça ralentit la digestion des sucres. Le gras, les fibres, c'est des molécules qui ralentissent les protéines, ça ralentit. Donc quand tu consommes du fromage, le vrai problème du fromage, c'est qu'il y a du gras saturé, donc, comme dans la charcuterie. Donc le gras saturé, c'est ce qui bouche les artères. Donc il ne faut pas en manger non plus illimité, mais... un petit morceau de fromage à la fin d'un repas, c'est pas ça qui va boucher les artères. Hein. Faut vraiment en abuser.
Qu'est-ce que tu penses du coup du Nutri-Score dans ce cadre? Est-ce que c'est une indication qui est intéressante, notamment pour que les personnes qui font leurs courses au supermarché comprennent qu'il y a du sucre dans les aliments?
Je trouve que c'est une excellente bonne étape parce qu'au moins ça a fait cogiter un peu les industriels qui cherchent à améliorer leur valeur nutritionnelle. Il est en train de devenir un peu plus strict qu'avant, donc de plus pénaliser les produits riches en sucre, riches en édulcorants aussi, parce qu'on n'a pas parlé des édulcorants, mais il y a des édulcorants qui sont très nocifs pour la santé, voire plus nocifs que le sucre blanc. Donc, il devient mieux, mais c'est vraiment de la co-construction avec les grands groupes industriels qui peuvent pas du jour au lendemain, pour des questions de marge, supprimer totalement le sucre de leurs aliments et améliorer leur valeur nutritionnelle. Mais ça a un petit peu, pour certaines marques, ça a un petit peu eu un effet néfaste parce que ils ont peut-être amélioré leur valeur nutritionnelle, mais ils ont fait des aliments qui étaient encore plus transformés. Donc, ils ont mis dedans tout plein de produits qu'on n'arrive même pas à prononcer pour justement qu'il y ait un peu plus de fibres. Donc, comme il y a plus de fibres, ils vont passer peut-être de E à C en termes de notes. Enfin, voilà. Donc, faut faire très attention aux dérives, en fait, du Nutri-Score, même si je pense que c'est quand même une bonne étape.
Ouais, le Nutri-Score n'a pas intégré ce pourcentage d'ultra-transformation dans les produits.
Ça n'a pas intégré l'ultra-transformation et aussi le côté naturalité du produit. Est-ce que dedans, dans les ingrédients, il y a surtout des choses artificielles ou est-ce que c'est des fruits, des légumes ouais. entiers? Enfin, voilà. Ouais.
Tu m'as fait le passage parfait vers, en effet, ces édulcorants qu'on connaît bien. Évidemment, l'aspartame qu'on va retrouver, par exemple, dans le Coca-Cola Light, mais aussi la stevia qui a fait sa grande apparition ces derniers temps. Qu'est-ce que tu penses de ces substituts? Tu nous as parlé du sirop d'agave tout à l'heure. Je pense qu'il y en a plein. Bah, c'est vrai que le miel, c'est vu probablement comme une alternative. Il y a aussi le sirop d'érable, j'imagine, comme alternative. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Alors, en fait, il y a différents types d'alternatives au sucre. Je les classerais dans deux cases. Il y a les édulcorants artificiels et, je mets entre guillemets, naturels. Pourquoi je mets entre guillemets naturels? C'est parce qu'en fait, même ceux qui sont naturels sont ultra transformés. Et finalement, c'est une molécule qu'on extrait d'une plante. Donc à la fin, c'est plus du tout la plante entière.
La stevia, par exemple?
Stevia, maltitol, érythritol, xylitol, tous les tols. Tous les trucs qui finissent en rose.
Je savais même pas que ça existait, ces trucs-là.
Et oui, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées du coup pour pallier à ce problème du sucre, mais finalement l'OMS a récemment publié un rapport pour stipuler que la stevia et tous ces édulcorants étaient nocifs pour la santé, qui pouvaient renforcer le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, que c'était souvent des alternatives au sucre qui étaient consommées par des diabétiques, mais qu'en réalité ça augmente les chances de devenir diabétique parce que ça rend addict au goût du sucre, parce que ces édulcorants sont 100, 200, 300 fois plus sucrants ont un pouvoir sucrant beaucoup plus fort que le sucre blanc, et donc les personnes le consomment, et donc leur cycle du leur circuit de la récompense avec la dopamine, c'est encore plus fort. Donc c'est des sucres qui rendent encore plus addicts. Et en plus, comme souvent c'est zéro calorie, je pense par exemple au Coca Zero qui est zéro calorie parce qu'il y a zéro sucre dedans et il y a des édulcorants. Et ben les personnes pensent qu'ils peuvent boire la bouteille entière, mais en réalité ils sont en train de manger une dose de sucre qui génère tellement de dopamine qu'ils deviennent encore plus addicts. Et comme le cerveau reçoit le message comme quoi il consomme du sucre, mais qu'il n'y a pas d'énergie derrière, il n'y a pas de calories, donc il n'y a pas d'énergie, il se dit, bah, en fait, ok, je reçois ça, mais j'ai faim. Donc, il mange encore plus.
Ah ouais. Donc, j'avais lu que l'aspartame, notamment, faisait créer, en fait, la même chose sur le cerveau que le sucre.
Voilà. Bah, aspartame, stevia, tout ça, c'est la stevia, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est minimum 300 fois 1000 fois ou 1000 fois plus sucrant que le sucre blanc. Donc, ça explique pourquoi. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à retourner le packaging de la stevia. Il n'y a pas écrit feuille de stevia. Ça veut dire que ça serait naturel. Il y a écrit glycoside de stéviol. Donc, en fait, c'est une molécule. Donc, oui, ça vient d'une plante à la base, je suis d'accord. Mais c'est passé dans un laboratoire et c'est passé par tous des process d'ultra-transformation avec des produits chimiques qui ont fait qu'à la fin, on a pu extraire cette molécule. Donc, c'est pas naturel du tout. Et donc, dans les alternatives, il y a donc ces édulcorants. Et puis, il y a les sucrants naturels. Et les sucrants naturels, dedans, tu as donc effectivement miel, sirop d'érable, sucre de coco, sirop d'agave. Tous ces sucrants-là sont très riches en sucre, en réalité. Il y en a entre 90% et 75% de sucre simple. Donc, c'est pas tellement moins que le sucre blanc qui est 100%. Donc, je dirais, c'est peut-être une première étape vers la transition et pour réduire sa consommation de sucre, mais c'est pas une vraie solution au problème du sucre.
Mais t'as quand même des minéraux, tu vois, qui sont intéressants dans, je sais pas, le sirop d'agave, le sirop d'érable.
J'ai plutôt envie de dire dans le miel, mais attention avec le miel aussi, pas le miel de supermarché qui coûte 1,50€ les 200 grammes, parce que là, c'est inquiétant. Souvent, c'est un miel qui vient du monde et dans le monde, il y a beaucoup de fraude sur le miel. C'est un des produits les plus fraudés. Les Chinois coupent très souvent avec du sirop de fructose pour augmenter leur marge et donc diminuer le prix de vente dans les supermarchés. Donc, quand on consomme du miel, il faut vraiment consommer le petit producteur qui est plutôt cher et donc le consommer avec parcimonie. Et dedans, là, oui, il peut y avoir certaines vertus antiseptiques. Quand on a des problèmes de toux aussi, ça peut aussi aider pour ça. En revanche, encore une fois, sur la molécule sucre, le miel est un faux ami. Il y a quand même 90% de sucre. Un diabétique ne peut pas en consommer du tout. Ça fait exploser sa glycémie.
Ouais, j'entends. On a aussi, sur ces fameux pics de glycémie, je voudrais ton avis. On a notamment certaines personnes comme Jessie Inchospé qui se sont fait connaître sur le sujet, sur comment éviter ces pics de glycémie. Et on nous parle beaucoup de commencer par le salé, par exemple, au petit déjeuner, par des œufs. Il faut prendre certains aliments dans un sens, commencer par les légumes, puis les protéines, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi, je pense que ça part d'une... que Jessie, que je connais bien, a très bien réussi à démocratiser un concept qui existe depuis toujours, en fait. On a toujours eu dans nos assiettes françaises un légume, un féculent et potentiellement une viande ou un poisson dans nos plats traditionnels. Donc finalement, on est tous un peu équilibrés. C'est juste que avec nos nouveaux modes de vie, donc on est souvent au bureau, on est souvent en vadrouille, on a tendance à consommer des plats déjà prêts, et là, c'est déséquilibré. Donc, le fait de faire passer les fibres avant les glucides, donc les féculents, par exemple, c'est un concept qui existe déjà d'avant. Manger une entrée, par exemple, avec une salade verte, par exemple, ou des crudités ou autre, c'est un concept qui existait déjà avant et qui, en fait, c'est game changer dans le sens où elle a réussi à rappeler aux gens que c'est important de consommer comme ça. Peut-être on l'avait un peu oublié, mais finalement, il n'y a rien de... C'est pas non plus rocket science. Et dans tous les cas, ça peut pas être mauvais pour la santé de se dire qu'on consomme d'abord de la salade. Surtout qu'en termes de science, comme elle l'explique très bien, les fibres, le gras, les protéines se digèrent plus lentement que des glucides. Ça passe moins rapidement dans le sang, voire les fibres ne passent pas dans le sang, elles vont directement dans le côlon où elles sont synthétisées par le microbiote. Ce qui fait qu'il y a des pics de glycémie qui sont moins élevés. Donc ça évite les effets secondaires de la consommation de glucides, donc la fatigue, les problèmes de digestion, le stockage dans les graisses, etc. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, attention aux dérives, parce que par exemple, du coup, comme les personnes essayent à tout prix de lutter contre les pics de glycémie, ils oublient le côté naturel. Et il y a beaucoup de dérives avec des personnes qui disent « bah du coup, moi, je vais consommer des édulcorants zéro calorie et avec zéro sucre », alors qu'ils sont artificiels. Et les sucres artificiels, enfin, les édulcorants artificiels, c'est à bannir vraiment de son alimentation. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc voilà, juste attention à ça.
Ouais, c'est même fortement déconseillé quand on est enceinte, par exemple, de consommer de l'aspartame aujourd'hui pour ses effets nocifs. Sur la plante, sur ta plante Yacone, du coup, explique-nous ta plante, la quantité de sucre par rapport du coup à ce qu'on a entendu comme alternative.
Oui, il y a 4 fois moins de sucre, donc 25% de sucre.
D'accord.
Donc pour donner un peu l'échelle, 100% pour le sucre blanc et le sucre de canne, 80-90% pour le miel, 75% pour le sirop d'agave et 25% pour le sirop d'yacone.
Mais en termes de goût, ça va du coup donner un goût moins sucré ?
Non, ça a le même pouvoir sucrant que le sirop d'agave. Et pourquoi ? Parce que dans le sirop d'agave, il y a des fibres qui s'appellent les fructo-oligosaccharides. Et un petit peu d'inuline. Et en fait, il y a un processus, je veux dire, une alchimie des molécules qui fait que les fructo-oligosaccharides, quand on les met avec un petit peu de sucre simple, donc les 25% de sucre quand ils sont avec ces fructo-oligosaccharides, ça fait un exhausteur de goût. Ce qui fait qu'en fait, ça a le goût du sirop d'agave sans les molécules nocives pour la santé, puisque c'est les fibres qui ont aussi un goût sucré, quoi, autrement dit.
Ouais. Comment il s'est produit aujourd'hui le yacone ? Est-ce qu'on a une production qui est plus vertueuse ?
Oui, elle est beaucoup plus vertueuse. Alors déjà, la plante de yacone pousse à 2-3 000 mètres d'altitude au Pérou. Donc c'est des climats plutôt tempérés. Il ne fait jamais trop froid, jamais trop chaud. Souvent, il y a des lacs qui sont encore plus hauts en fait en altitude. En tout cas, le fournisseur qu'on a eu ces dernières années, sur ces premières années de lancement, est situé, donc son usine est située à 2 000 mètres d'altitude avec les plants et le lac à 3000 mètres, et ce qui fait qu'en fait, pendant les saisons d'hiver, il pleut beaucoup, ça remplit le lac, et après ça descend en torrent. Donc en fait, il y a pratiquement pas d'irrigation artificielle. C'est vraiment les pluies qui irriguent après tout au long de la saison. On utilise bien sûr ces bio, donc on n'utilise aucun intrant, sauf du... En vrai, c'est de la merde de mouette. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le guano, je crois. Voilà, le guano, donc ça, c'est un engrais naturel. Et puis la transformation de la plante en sirop est aussi très respectueuse de la plante, parce que en fait on pèle comme si on pelait une pomme de terre, après on fait une extraction de jus et après on fait évaporer le surplus d'eau à basse température pour éviter justement la transformation des fructo-oligosaccharides, des fibres, en sucre simple. Et donc ce qui fait qu'à la fin tu as un produit sans additifs, 100% naturel et peu transformé.
Qu'est-ce que ça donne en termes de goût ?
Alors en termes de goût, le sirop d'yacone, il a sa personnalité. Donc quand on le consomme comme ça ou dans un yaourt, il a un goût donc très sucré, légèrement fruité ou caramel. Ça dépend des personnes, ça dépend des palais. Moi je trouve que c'est vrai qu'il y a ce côté très caramel. Et dans des préparations par contre à pâtisserie, il a un goût neutre. C'est plus que son pouvoir sucrant qui est là, mais il n'y a plus le goût fruité ou autre. Ça devient neutre, donc c'est pour ça que c'est top dans des gâteaux au chocolat ou dans des bananes à bread, dans des madeleines. Ça garde le goût sucré sans l'arrière-goût. Enfin, non, c'est pas un arrière-goût d'ailleurs, attention, parce que l'arrière-goût, c'est ce qu'il y a dans la stevia, par exemple. C'est le truc qui te reste vraiment toute la journée. Le sirop d'yacone, tu le goûtes, c'est très bon, mais ça te reste 5 minutes dans la bouche, quoi. C'est pas un truc qui...
Où est-ce qu'on peut trouver ton sirop ?
Je vous ai donné envie. Donc, notre sirop d'yacone est vendu dans plus de 500 magasins bio en France, Naturalia, quelques Biocop, dans tous les bio, c'est bon, et Sobio. et en ligne sur notre e-commerce yacon.co.
Ok, chouette. Est-ce que tu n'as pas peur de l'effet quinoa, qui est que si ça devient vraiment à la mode, on a les effets pervers d'aller chercher, d'occidentaliser, enfin tu vois, de néocolonialisation quand même de ces produits-là?
C'est une excellente question. Je sais pas où est-ce qu'on va en arriver avec le sirop d'yacon. Je suis sûre qu'il va devenir aussi connu que le quinoa. Ça, c'est une vraie conviction personnelle. Maintenant, je pense que les Péruviens avec qui on travaille énormément veillent au grain maintenant, avec l'expérience du quinoa.
Parce que, est-ce qu'au Pérou, ils s'en servent comme sirop ou tu disais non, ils le consomment comme un fruit?
Ils le consomment comme un fruit, ouais. Le sirop d'yacon, c'est plutôt pour l'export.
Ok.
Ouais. Mais typiquement, tu vois, nous, en termes de vision, en tout cas pour le sirop d'yacon, et on pense rester les leaders sur le marché pendant un petit moment, c'est de faire du sirop d'yacon péruvien pour les États-Unis et l'Asie, et faire du sirop d'yacon français avec des plants français pour l'Europe. Donc finalement, tout le monde va s'y retrouver. Enfin, le marché américain, c'est un marché immense. Donc les Péruviens vont toujours garder un marché immense, enfin, je veux dire, il faut qu'on soit plusieurs acteurs, notamment par rapport au risque climatique, parce que quand il y a une mauvaise saison en France, ça veut dire qu'on ne pourrait pas vendre pendant toute une saison, enfin, ça serait dramatique. Donc il faut toujours un lab, une usine pour backuper l'autre en cas de problème climatique, et vice versa. Hein. Si le Pérou a des soucis, si on fait du sirop d'yacon made in France, on pourra aussi envoyer outre-Atlantique s'il le faut.
Mais quand on voit les scénarios climat et à quel point ça peut être apocalyptique ce qui nous arrive dessus, est-ce qu'on se dit qu'il faut encore faire de la production de sucre? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas devenu un bien non essentiel?
En fait, moi, j'ai vraiment une conviction personnelle. Je pense que personne n'arrêtera totalement de consommer du sucre. Donc, quitte à consommer du sucre, autant consommer le bon sucre pour la santé et le bon sucre pour la planète. Et le sirop d'yacon a vraiment ce potentiel parce que les feuilles de yacon ont des pesticides naturels intégrés dans les feuilles, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas de...
Des nuisibles ?
Ouais, voilà, merci. Ils n'ont pas de nuisibles. Donc... Il n'y aura jamais de autant d'intrants que dans le sucre blanc et le sucre de canne. Et je doute, un peu comme la viande, tu vois, pour le coup, le véganisme, ça fait bien 15 ans que c'est matraqué, que les gens font leur transition. Néanmoins, les gens continuent à consommer de la viande et du poisson, ils n'ont pas tout éradiqué. Et je suis convaincue que pour le sucre, on ne va pas totalement arrêter le goût sucré sur la planète. Donc, quitte à le faire, autant le faire bien, quoi.
Ok, on en arrive à la conclusion de ce podcast. Je vais poser quelques petites questions. Ta recette au yacon phare?
La recette que je préfère, c'est même pas une recette. C'est juste mon fromage blanc avec du sirop d'yacon dedans et quelques noix par-dessus. Parce que vraiment, je trouve que le sirop d'yacon dans le yaourt, c'est juste une tuerie.
Et sur les pancakes, ça marche bien?
Carrément, pour le brunch. Mais là, il faut se faire une petite déterre pour cuire les pancakes, etc. Moi, oui. Je pense au truc pratico-pratique. T'achètes ton fromage blanc au supermarché et tu consommes ça tranquillement.
C'est quoi ton conseil pour réduire sa consommation de sucre?
Mon conseil, c'est la meilleure manière de résister à la tentation, c'est d'y céder. Donc, cédez-y avec le sirop d'yacon. Donc, autrement dit, c'est très simple. Tu retires de ton placard le sucre blanc et tu poses un sirop d'yacon dans ton placard. Et dès que tu as le réflexe et dès que tu as l'envie en fait, de consommer du sucre, tu vas vers le sirop d'yacon. Donc, tu consommes un produit beaucoup plus sain. Et au moins, tu n'as pas la tentation du, entre guillemets, vrai sucre, sucre traditionnel qui est au fond de ton placard, un peu rose là, et qui te fait un clin d'œil, quoi.
Okay.
Donc, il vaut mieux retirer de son placard le sucre blanc.
Ok. Et faire gaffe aux glucides ou non?
Non, honnêtement, les glucides, je trouve ça un peu extrême de dire qu'on arrête les glucides. Alors, bien sûr, si dans une même journée... Même pas une journée.
Te pose la question parce que il y a une vidéo de ce podcast qui a fait un buzz énorme pour la consommation d'un pain blanc, où notre expert nous disait que c'était l'équivalent d'une canette de coca avec le même impact sur le pancréas.
C'est possible, surtout que le pain de mie blanc de supermarché est vraiment ultra transformé. Et donc, non seulement il y a beaucoup de glucides, mais en plus, ils rajoutent du sucre pour qu'il y ait un goût un peu sucré dans le pain de mie, quoi, ce goût qu'on aime. Hein. Et il n'y a absolument rien de naturel dedans. Donc oui, le pain de mie est à bannir. On peut bannir le pain de mie. En revanche, bannir tous les glucides, ça non, je ne suis pas forcément pour.
Quelles mesures tu souhaiterais souffler au gouvernement pour une production et une consommation plus vertueuse de sucre?
J'adore cette question. Alors, si je pouvais devenir présidente de la République demain, je ferais passer cette taxe sucre. Il existe une taxe sucre aujourd'hui qui a été donc refusée par Elisabeth Borne, où elle a invoqué le 49-3 pour éviter de faire passer cette taxe. Et cette taxe a pour but d'augmenter le prix des produits sucrés pour qu'en fait les gens en consomment moins. Mais si on s'arrête là, je trouve ça pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut faire une taxe et ensuite réinjecter les subventionner des produits sains et donc réduire le coût des produits sains. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand frein à l'achat des produits sains, c'est « oui, mais c'est trop cher ». Et les personnes qui ont une famille, des enfants et qui n'ont pas forcément un gros budget ont besoin de faire des arbitrages et c'est souvent l'alimentation qui prend un coup dans l'aile. Donc si on pouvait avoir des produits sains pas chers, grâce à ces subventions, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de fast-food.
À bon entendeur. Tes futurs projets ?
Mes futurs projets, bah, c'est continuer le sirop diacone partout et pas seulement au travers de notre marque, mais vraiment aller mettre du sirop diacone dans toutes les préparations industrielles pour les aider à faire la transition vers le sans sucre. Mettre du sirop diacone sur tous les brunchs, tous les petits déjeuners des hôtels, des restaurants pour offrir une alternative au sucre accessible tout de suite. Donc le but, c'est d'aller inonder le marché avec du sirop diacone.
Est-ce que tu as un conseil de lecture ou de film à donner ?
Alors, je ne suis pas du tout très intellectuelle sur les livres. Moi, en vacances, j'aime les romans. Donc surtout, détendez-vous. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai toujours voulu lire des livres, tu sais, de développement personnel. Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, en vacances, je ne me détendais pas. Je me disais, ouais, à la rentrée, je vais faire ça, je vais faire le Miracle Morning, je vais me réveiller à 6h du matin et tout. Et en fait, ça te draine. Donc maintenant, je lis des romans avec des histoires vraiment faciles à comprendre et ça me détend bien.
Tu n'as pas un documentaire sur le sucre pour les personnes qui ont envie d'approfondir le sujet ?
Il y en a plein sur Arte, il y en a un super, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais si vous tapez sucre, documentaire, sucre, Arte, il est super. Okay. Je crois que sur Netflix, il y a plusieurs documentaires aussi sur le sucre. J'en ai pas un en particulier, mais il y en a tellement aujourd'hui, il suffit de taper sur Google. Hein.
Allez, pour une petite angoisse de fin d'année.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.